franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Alexandre, la fin et le démembrement de l'Empire, 326-300 avant notre ère. Avec Jean-Marc Héroux, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Jean-Marc Héroux publie sous le même titre dans la collection Harbour d'Emmanuel Thiébaut un livre chez Larousse et puis un fort dossier des cahiers de sciences et vie consacré en avril 2011 à Alexandre, son rêve, son mythe.
Alexandre était un dieu, Cadmos. Ou ce qui s'en approche le plus. Alexandre était plus que fort, c'était Prométhée, c'était l'ami de l'humanité, il a changé le monde. D'un ramassis de tribus misérables, il a bâti un empire où tout devint possible. On comprit tout à coup que le monde pouvait être gouverné par un roi unique. Il fonda 18 Alexandries. Son empire ne fut bâti ni sur les terres, ni sur l'or, mais sur les idées. L'idée hellénique d'une civilisation.
On va essayer d'escalader le massif par une pente, celle de Mène de Cardia, que vous suivez pas à pas, Jean-Marc Héroux, dans votre livre. Voilà, un homme humain, un comparse, non, un compagnon.
Un compagnon, il fait partie des fameux hétéroïs, les compagnons d'Alexandre le Grand, d'avant lui son père, hein, Philippe de Macédoine. Philippe a certainement connu Mène de Cardia, donc Cardia est une petite province, une petite cité grecque de la Chersonèse de Thrace.
Oh là là, aujourd'hui, ça c'est la Turquie du Nord.
Exactement, ouais. Aujourd'hui on est sur le détroit des Dardanelles, on appelait cette partie de l'Empire l'Hellespont dans l'Antiquité, et c'est à l'occasion des conquêtes de Philippe de Macédoine que se nouent des relations de parenté, d'hospitalité avec la famille de Mène.
On est vers 340 avant notre ère.
Voilà, 341-342 avant Jésus-Christ, et Eumène devient le chancelier de Philippe de Macédoine pendant 7 ans, puis de son fils Alexandre le Grand pendant 13 années.
Donc il constitue en partie ce royaume noyau qu'est la Macédoine, qui n'est pas une terre barbare.
Absolument pas. Thucydide, le grand historien de l'Antiquité, a voulu nous faire croire, accroire que les Macédoniens étaient un peuple barbare. En fait, il s'agit de descendants de la ville d'Argos. C'est la raison pour laquelle on appelle cette dynastie la dynastie Argéade. Ils se réclament du dieu Héraclès, auquel Alexandre le Grand ne cessera jamais de se rappeler au souvenir.
Donc il accompagne ensuite le fils à partir de 336 pendant cette dizaine d'années de conquête avec peu de grandes batailles. Finalement, certaines sont importantes, mais davantage encore d'escarmouches, de franchissements de défilés.
C'est une conquête foudroyante, avec effectivement, sur ces 12 à 13 années de conquête, peu de grandes batailles. Il y a celle que l'on connaît au final avec le dynaste indien Poros et ses 120 éléphants. Alexandre dispose d'une armée de 120 000 hommes à cette époque. Pourtant, lorsqu'il franchit l'Hellespont, il a une cavalerie de 5 000 cavaliers, des fantassins dénombré entre 25 et 30 000, et face à une armée perse qui lui rend deux ou trois fois son nombre de militaires, il va mettre en déroute au cours de trois grandes batailles que sont Gaugamel, le Granique et Issos, l'ensemble de l'armée de Darius le Grand.
On va faire un arrêt sur image. Darius est mort, l'Égypte bien avant a été conquise, on n'est pas encore en Inde, on est en 326 avant notre ère, nous sommes au bout du chemin, et il bute Alexandre face à l'Himalaya, ou du moins ses confins. C'est un extrait du film d'Oliver Stone de 2004 qu'on va souvent utiliser au long de cette émission.
Les éclaireurs ont eu beau explorer le moindre sentier, Alexandre, il n'existe aucun moyen de traverser. À moins de passer par le sud, vers l'Inde.
Il faudrait être un dieu pour percer cette muraille jusqu'à l'océan extérieur.
Nous le ferons, Alexandre.
Avant de chercher, Jean-Marc Héroux, l'issue avec Alexandre vers l'Inde, essayez de nous dire, à partir de l'exemple de notre ami Eumène de Cardia, comment fonctionne cet empire à flux tendu qui est allé si loin.
Alors déjà une anecdote, c'est la partie de la conquête la plus ardue, la plus difficile, qui a été la plus coûteuse en hommes, puisqu'elle n'a cessé d'être émaillée d'escarmouches, d'attaques que l'on appellerait des attaques de guérilla désormais. Et Alexandre va créer des cavaleries d'élite mobiles qu'on appelle des hiparchies. Et il va confier notamment l'une de ces hiparchies à Eumène pour aller mettre à part une cité qui s'était rebellée. Alors, au bout du confins de l'empire connu des Achéménides, comment s'administrer ce vaste empire ?
Depuis la tente d'Eumène ?
Pratiquement, oui. Eumène réglait la correspondance. Tout lui parvenait dans un temps record au moyen d'un système de postes, la fameuse Angareion, les Angareia, ce sont les postes royales qui permettaient l'acheminement des informations, des actes officiels en un temps record et qui permettaient de retourner ces actes avec les souhaits, les desiderata du souverain.
Mais l'Empire Achéménide de Darius avait tracé des routes.
Les routes royales. Qu'empruntaient ces fameuses postes royales, tout à fait, et qui permettaient de joindre entre elles les différentes provinces de ce vaste empire. Ces provinces, ce sont les satrapies.
Mais alors, ces satrapies, on y avait laissé des notables locaux qui avaient choisi la collaboration avec Alexandre, qui continuaient d'administrer les choses.
C'est tout le réalisme politique du jeune roi macédonien. Plutôt que d'être conforté à l'irrédentisme de la classe dominante, il va doubler cette classe dominante auquel il laisse les pleins pouvoirs administratifs de Macédoniens, plutôt, ses généraux, à qui il confie les pouvoirs militaires et de lever des tribus. Ce qui fait que la classe dominante ne va pas se rebeller contre le dominateur et Alexandre n'aura pratiquement pas, tout au long de sa conquête, à retourner en arrière pour mettre au pas des provinces qu'il avait pacifiées.
Alors de même qu'il est devenu pharaon en Égypte, il devient empereur avec les symboles de l'Empire chez les Achéménides.
Voilà, et en janvier 331, tout le monde le sait, il crée Alexandrie, il est fait fils de Zeus au temple d'Amon-Ré dans l'oasis de Siwa. Et lorsqu'il retourne à Babylone, à Persépolis, il prend tous les apparats orientaux de la royauté.
Enfin, il prend aussi les trésors. Parce que avec quel argent tout ça fonctionne-t-il ?
Il s'est bien servi. Lorsqu'il s'est emparé lorsqu'il a gagné Ogranik ainsi qu'Aïssos, il est parvenu à mettre la main sur le trésor royal de Darius, qui était dans le train de bagages. Vous savez, le train de bagages, c'est la famille, les amis, les artisans, les prêteurs sur gage qui accompagnaient l'armée sur les campagnes. Et donc, il met la main sur un véritable trésor de guerre, permettez-moi l'expression, qui lui permet de réorganiser à sa façon l'Empire.
Et votre ami, Eumène de Cardia, l'archi-chancelier, comme vous dites, gère, j'imagine, l'inventaire de ses trésors, de même que les ressources fiscales.
Tout à fait, c'est une sorte de super premier ministre, on l'appelle l'archi-chancelier. À la mort d'Héphaïstion, le favori royal d'Alexandre, Héphaïstion va mourir quelques 6-8 mois avant Alexandre, Eumène va concentrer sur sa personne l'ensemble des responsabilités administratives, mais également tributaires, la levée de l'impôt.
Alors peut-être plus efficace que l'amant d'Alexandre, moins joli là. Quel âge Eumène, une bonne quarantaine d'années.
Eumène, il est dans la force de l'âge, il a une bonne quarantaine d'années, fin lettré, administratif, qui va se révéler un stratège militaire hors pair.
Donc c'est un vétéran au fond. C'est vétéran avec qui Alexandre a de plus en plus de difficultés, surtout quand on arrive en Inde. L'Inde qu'il comprend mal, où il se comporte violemment, qui ne lui réussit pas si bien, le mécontentement monte.
Bien sûr, cette aventure est effrayante. Et tous, nous sommes effrayés. Si nous avons peur, c'est que nul n'est venu jusqu'ici avant nous. Mais nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de l'océan extérieur, le chemin du retour. Nous bâtirons une flotte et nous cinglerons à travers la mer et le long du Nil jusqu'en Égypte. Et d'Alexandrie, nous rallierons la Macédoine en moins d'un mois. Nous retrouverons nos foyers et tous ceux qui nous sont chers pour partager nos trésors et le récit de nos aventures en Asie. Et nous jouirons d'une gloire impérissable jusqu'à la fin des temps.
Mon roi, je n'aime pas les Jérémiades. Je ne les ai jamais tolérés sous mon commandement. Mais nous avons perdu bien des hommes. Certains de fièvre, beaucoup moururent en braves. D'autres, n'ont pas eu de chance. Nous étions 40 000 quand nous sommes partis il y a 8 ans. Nous t'avons suivi. Jusqu'au bout de la terre, nous avons marché. Nous avons combattu pour toi. Certains d'entre nous ont vu 50 batailles. Nous avons tué beaucoup de barbares. Et tu nous demandes d'aller combattre encore d'autres tribus de ces singes enragés. Et encore combien de fleuves à traverser ?
Tu dis vrai, Kratéros. J'ai été bien négligent. J'aurais déjà dû renvoyer les vétérans dans leur patrie, et je le ferai. Les premiers seront les boucliers d'argent. Suivis par tous ceux qui ont servi 7 ans, avec une pension versée par le trésor royal. Et respectés, riches, adorés de tous. Admirés pour vos exploits par vos femmes et vos enfants. Vous serez traités en héros jusqu'à la fin de vos jours.
Voilà Corinne Farrell dans une surproduction qui a coûté fort cher, puisqu'on parle de pension, 150 millions de dollars. 2004, ici s'arrête l'empire d'Alexandre. Les vétérans, ils sont fatigués d'être minorisés aussi, et pas seulement désireux de rentrer.
Voilà, la conception même de l'armée évolue. L'élément macédonien n'est plus l'élément principal. Le substrat indigène s'y superpose. Et puis aussi, on a affaire désormais à l'apport du mercenariat qui se développe de plus en plus. N'oublions pas que ces vétérans, depuis les batailles d'Amphipolis, Potidée en 356 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'arrivée sur les bords des affluents de l'Indus et du Gange, ces vétérans ont accompli à peu près 20 000 kilomètres. Ils souhaitent retourner en Macédoine avec le pécule amassé.
Alors on est en 326, au bout donc du parcours de Philippe. Puis d'Alexandre, on peut peut-être faire le panorama de l'Empire qui s'étend donc jusqu'à l'Inde, mais plus au nord et puis aussi plus à l'est.
Alors Alexandre a conquis l'ensemble du monde connu, l'Oïcuménée, il a atteint les colonnes de Bacchus, il est parvenu jusqu'à l'actuel Afghanistan, Kazakhstan. On parle des satrapies orientales, que l'on connaît, la Bactriane, la Sogdiane. Il a créé une Alexandrie qu'il appelle l'Alexandrie Escatée, qui est l'Alexandrie ultime. Donc, il est arrivé jusqu'au nord de l'Inde. Il va redescendre désormais sur le bassin du Gange et le versant de l'Indus.
Que vous connaissez bien, Jean-Marc Héroux, et qui sonne en effet merveilleusement. En Égypte, on est allé jusqu'où auparavant ?
En Égypte, on est allé jusqu'à la frontière de l'actuelle Libye. L'oasis de Siwa est aujourd'hui sur la frontière de l'Égypte et de la Libye. C'est la partie religieuse où Alexandre a reçu du dieu pharaon Amon-Ré la distinction, l'honneur suprême d'être déifié.
Et c'est en Égypte qu'est fondée Alexandrie, qui va entretenir le mythe de l'empereur. Ici, un extrait d'un texte qui vient d'Alexandrie, dont on a des versions multiples. Nous sommes très tard dans le temps, entre le 4e et le 11e siècle, bien après sa mort.
Un ange le prit dans les airs et dit : Regarde ce que tu as au-dessous de toi. Alexandre répondit : Je vois ma ville et d'autres villes avec elle. L'ange monta plus haut et dit : Regarde encore. Alexandre répondit : Ma ville s'est mêlée aux autres villes. Je ne la reconnais plus. L'ange le prit plus haut et dit : Regarde encore. Alexandre s'écria : Je ne vois plus que ma ville seule. L'ange dit alors : Ce que tu vois est la terre entière, entourée par la mer. Ton Seigneur a voulu te montrer l'étendue de la terre qu'il soumet à ton pouvoir.
Voilà nous la terrible cité. Je te hais.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Marc Ayrault qui vient de publier La fin de l'Empire d'Alexandre chez Larousse, c'est notre thème aujourd'hui. Je n'ai pas dit, Jean-Marc Ayrault, que vous veniez d'une Alexandrie de l'Ouest. Vous nous parliez de l'Alexandrie ultime, de l'Alexandrie de Sogde. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ?
Je suis directeur des affaires culturelles à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados.
Oui, où il y a des théâtres, des gymnases, une sorte d'acropole politico-culturelle. Bon, la mort, 323 avant notre ère. Alors, on est à Babylone, autre Hérouville-Saint-Clair.
Autre, peut-être. Alexandre meurt probablement des suites de la malaria. Il y a eu beaucoup de conflits chez les historiens pour expliquer sa mort. Certains ont voulu qu'il soit assassiné. Pour autant, ce que l'on en déduit des signes précurseurs des jours qui ont précédé sa mort, Alexandre a eu la fièvre, on a parlé d'un brusque refroidissement, et il souffrait depuis quelques mois de fortes fièvres. Donc il est vraisemblablement décédé des suites d'une maladie qui s'approche de celle de la malaria.
Comme Oliver Stone, qu'on a beaucoup cité, croit bon pour la dramatisation de son film de parler d'empoisonnement, fait exceptionnel, on choisit la version plus ancienne, Robert Rossen avec Richard Burton, 1956.
Barcine, lorsque je serai mort, veille à ce qu'on emporte mon corps de ces lieux et à ce qu'on le jette dans l'Euphrate. De façon qu'il puisse disparaître, afin que l'humanité puisse être à jamais persuadée que je suis venu d'entre les dieux et qu'auprès des dieux, je suis retourné. À qui vas-tu léguer ton empire ? Au plus fort.
Le principe de votre recherche, c'est de suivre les pas d'un compagnon. Eumène de Cardia, qui était l'archi-chancelier de l'Empire, qui soudain apparaît pour ce qu'il est. C'est un extraordinaire metteur en scène, Alexandre. Mais quand le rideau tombe, c'est la bagarre dans la salle.
Tout à fait. Les ambitions personnelles apparaissent. Nous avons affaire à des professionnels de la guerre qui ont été tenus sous le joug d'une main ferme par Alexandre le temps de son empire, de son royaume et de sa vie. Et les ambitions s'éveillent au lendemain de la mort d'Alexandre. Et c'est ce qui va faire tout le sel du partage de Babylone.
Ils se disputent aussi la dépouille. Après, on va parler de la dispute sur les terrains.
Ah, le plus malin à ce titre est Ptolémée. Pas forcément le plus en vue des généraux pour ses hauts faits de guerre, mais ce dernier va se retrouver à la tête d'une satrapie qui n'était pas forcément la province qu'il se destinait à détenir, à savoir l'Égypte. Et il va emporter la dépouille d'Alexandre en Égypte. Il l'a tellement bien cachée qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas où elle est précisément. On imagine que le tombeau était à côté de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Mais ces traces archéologiques, en tout cas, restent un mystère.
Les compagnons, je ne sais pas s'ils tiennent en si haute estime que ça, votre ami Eumène de Cardia, qu'il considère comme un étranger, parce qu'il a été naturalisé, mais il est né à la limite de la Macédoine.
Oui, on peut parler d'un sentiment de racisme à l'égard de ce Grec qui, par ses hautes qualités et par son rôle central dans l'administration de l'Empire, s'est fait des ennemis, notamment Antipatros, qui était le responsable de la partie européenne de l'Empire d'Alexandre. Cet Antipatros recevait ses ordres de la part d'Eumène, qui donnait un coup de tampon, le tampon de la chancellerie grecque, sur les ordres qu'il envoyait à Antipatros. Et au lendemain de la mort d'Alexandre, Eumène de Cardia a, dans un premier temps, toutes les peines du monde à faire valoir sa position et son rôle pour lui également détenir une satrapie.
Alors, on lui donne une satrapie, mais alors elle est virtuelle, cette satrapie.
Elle est à conquérir. Auprès d'un satrape local, Ariarat, la Cappadoce,
de Turquie d'Asie.
Voilà, la Turquie d'Asie, c'est le grand plateau anatolien de la Turquie d'Asie actuellement. C'est une province riche en hommes, riche en chevaux, très bien organisé administrativement, ce qui permet au satrape, au gouverneur donc qui détient cette province, de pouvoir lever des impôts réguliers et de pouvoir former une armée de circonstances.
Mais ça avait vraiment été conquis par Alexandre, cette zone, parce qu'on a l'impression que l'Empire d'Alexandre, il était fait de voies de communication, on contrôlait les nœuds de communication et puis les zones de résistance potentielle, on les contournait.
Oui, c'est avant tout un réaliste. Hein. La réelle politique a peut-être été inventée par Alexandre le Grand. Dès lors qu'il n'avait pas une opposition farouche, il continuait d'avancer et il convenait de laisser à la tête de ses provinces les satrapes, fussent-ils orientaux d'ailleurs.
Alors voilà notre malheureux Eumène, on est vers 320, à la tête d'une satrapie virtuelle. Et alors avec des soldats qui n'obéissent, parce qu'il y a de plus en plus de mercenaires, que quand la solde est annoncée haute.
Voilà. Il a affaire à toutes sortes de stratagèmes pour maintenir l'unité au sein de son armée, pour disposer du commandement effectif au sein de cette armée, puisque des généraux macédoniens lui disputent le droit et l'honneur de commander cette armée. Et pourtant, l'administratif qu'il est va infliger de lourdes défaites militaires, remarquables en termes de stratégie, pour reprendre très, très rapidement le canevas des victoires d'Alexandre. Il va...
D'Eumène, vous voulez dire
D'Alexandre également, puisque Eumène, tout comme Antigone, qui sont les plus talentueux disciples d'Alexandre le Grand, vont reprendre le canevas d'attaque par biseau de la cavalerie sur la phalange ennemie, et le contournement de l'armée ainsi fait, celle-ci est anéantie.
La vivacité contre l'immobilité, ça va quand même mal se finir, 316, pour votre ami Eumène qu'on va abandonner là.
Alors, il n'est jamais défait militairement, pourtant sa phalange des incurables qu'on appelle les argiraspides, les boucliers d'argent, en raison de leur temple grise, parce qu'ils sont tous sexagénaires et qui n'ont jamais cessé de faire valoir leur farouche indépendance, les argiraspides se voient prendre leur train de bagages par l'armée d'Antigone, et ils décident de livrer leur chef, leur hégémon, Eumène de Cardia.
Et Antigone va tuer Eumène. On est d'ailleurs assez cruel dans les royaumes qui se sont constitués au bout d'une génération de guerres intestines. Dernière étape, nous sommes en 300 avant notre ère. Alors, émergent trois royaumes de types différents. Le royaume de Macédoine demeure, d'ailleurs votre ami Eumène c'était un légitimiste, hein, il était partisan de ce royaume de Macédoine. Ça c'est un état national ?
C'est une monarchie de type national, gouvernée par une caste aristocratique depuis des temps immémoriaux. Cette monarchie s'est créée au moment du départ des Perses à la suite de la bataille de Salamine, de la bataille de Platée et de l'incendie de l'Acropole. Et à cette occasion, cette monarchie s'est constituée sous un substrat aristocratique très infatué de sa propre légitimité.
Alors cet état national qui se dit hérité de Philippe et d'Alexandre n'est pas dirigé par les membres de la famille qui ont dû être assassinés, j'imagine, vu les mœurs des diadoques.
Voilà, donc en 310, Cassandre fait assassiner le jeune Alexandre IV ainsi que sa mère Roxane, la princesse Sogdiane. Et puis en 305, on a communément l'habitude d'appeler cette année l'année des rois, puisque les armées de Séleucos, Antigone, Cassandre acclament leur chef en qualité de roi. Désormais, on a affaire à l'époque hellénistique, on est entré de plein pied dans les royaumes hellénistiques.
Retenez le nom de Séleucos. Et puis, on ne va pas aller en Sogdiane. Maintenant, nous passons à l'Est, après la Macédoine. Et nous voyons un autre des trois grands royaumes, plutôt une royauté personnelle. C'est une royauté dominée par Séleucos et les Séleucides. Et on va jusqu'à la Sogdiane et jusqu'à la Bactriane. La Bactriane, ça correspond, allez, grosso modo, à une partie de l'Afghanistan actuel. C'est d'ailleurs le roi d'Afghanistan de 1963, Zahir Shah, qui a découvert une ville des extrémités de ce pays.
J'étais en train de chasser lorsque j'ai aperçu un morceau de colonne grecque. J'étais surpris de trouver une telle chose, mais j'étais très content d'avoir trouvé.
Sur le terrain de chasse du roi, Les ruines révèlent un site archéologique important, Ayr Hanoum.
Lorsque nous sommes arrivés, ce que nous avons vu, c'est un grand site, près de 2 km de long et 1,5 km de large. Nous avons ramassé de la céramique par terre et cette céramique était tout à fait semblable à la céramique que les Grecs utilisaient dans le bassin méditerranéen. Et sur certains de ces fragments de céramique de type grec, on a trouvé également des inscriptions, les noms des propriétaires de ces vases, ces noms étaient grecs, ils étaient inscrits en grec. Jamais nos cœurs n'ont battu aussi vite.
Voilà, extrait d'un documentaire de Patrick Cabois sur Ayr Hanoum, ville des extrémités.
C'est une ville grecque, comme toutes les Alexandries fondées par Alexandre sur la base des grands flux commerciaux qui vont véhiculer les étoffes, les soieries, plus tard le thé, entre la Chine, l'Inde et le bassin occidental de la Méditerranée. Nous avons affaire à des villes, qu'elles soient nommées Alexandrie ou comme ici à Ayr Hanoum, à des villes grecques avec tout l'apparat officiel et administratif des villes grecques que l'on peut connaître en Turquie et aussi en Grèce.
Mais la tutelle est un peu flottante des rois séleucides sur une ville comme celle-ci. La base, c'est la Babylonie, c'est de là que viennent les richesses. Et puis reste le troisième royaume, vous parliez de Ptolémée, c'est le royaume qu'on va nommer le royaume des Lagides, et qui est un peu une thalassocratie, parce que c'est la flotte qui fonde la circulation du pouvoir.
Oui, c'est le dernier royaume qui se constitue, et quand on regarde les successeurs, les fameux Diadokoï, les successeurs d'Alexandre, on est en 280-300 avant Jésus-Christ, nous n'avons pas affaire aux généraux les plus émérites, nous avons affaire aux généraux qui ont attendu patiemment leur heure. Et Ptolémée, à ce titre, est celui qui a su le mieux jouer son jeu.
Ptolémée qui a fondé le musée et puis le phare, extrait d'une émission de France Inter 95.
Le phare d'Alexandrie, la septième merveille du monde, qui pendant des siècles a éclairé le monde. En ligne, Stéphane Millière, directeur associé de Gédéon, bonjour.
Oui, bonjour.
C'était une construction folle que ce phare d'Alexandrie.
Oui, il faut imaginer à peu près 120 mètres de haut, avec une base colossale, parce qu'on ne savait pas construire des murs absolument droits sur une taille aussi grande, donc c'était un peu en cône. C'était un bâtiment considérable, il y avait un nombre de pièces immense. C'était le plus grand bâtiment jusqu'au XIXe siècle. Et on sait qu'il y a encore à Alexandrie tellement de choses à trouver, tellement de choses qui sont encore enfouies dans cette ville.
Alexandrie qui témoigne de ce qu'était l'époque hellénistique, époque d'échange.
Tout à fait. La mort d'Alexandre en 323 ouvre une nouvelle ère. Il s'agit de l'ère hellénistique qui va perdurer jusqu'au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Et c'est effectivement une vaste ère sur le plateau oriental de la Méditerranée d'échanges entre l'Inde, la Chine et ce qui va devenir l'Europe occidentale.
En grec, les échanges ? Parce qu'il y a un grec de la Koiné.
Alors, c'est la langue du koinon, c'est un grec qui n'est pas le grec classique, et ça va être le grec des échanges commerciaux qui va peu à peu supplanter l'araméen.
Ça, c'est le choix de notre argéraspide, j'ai retenu le nom. Jacques Sigal, Sandrine Laurent, Philippe Duclos, Franck Olivard, Clarisse Le Gardien, Frédéric Martin et Camille Poux-Jalaguier. Votre livre chez Larousse, La fin de l'Empire d'Alexandre. Et puis, je signale aussi le dossier de Science et Vie, cahier de Science et Vie, avril 2011.